Eh bien, Joseph Kessel, jusqu'ici, et ici sont les environs de 1930 à peu près, vous aviez plus ou moins choisi vos sujets de reportage. Mais à cette période même, vous souhaitiez refaire d'autres enquêtes dans le style de marché d'esclaves. Il se trouvait qu'une actualité s'imposait, une actualité combien brûlante, la montée du national-socialisme en Allemagne.
Depuis des années, en effet, un phénomène extraordinaire commençait à inquiéter tous les gouvernements européens et, par voie de conséquence, intéressait les journaux. Un homme était apparu une quinzaine d'années plus tôt dans la vie de l'Allemagne, un homme alors complètement inconnu, un ancien caporal de l'armée allemande, qui s'appelait Adolf Hitler. Peu à peu, il avait réuni autour de lui des hommes de tout acabit, avait écrit un livre qui s'appelait Mein Kampf, qui était devenu la Bible de ces hommes et de ce parti, et avait commencé de secouer l'Allemagne pour arriver au pouvoir. D'abord, on n'y avait pas cru. Et puis, d'année en année, les chiffres de ses adhérents avaient montré que c'était une chose sérieuse. Aux environs 1930, il avait quelques dizaines de députés au Parlement. Et en 1932, lorsque le président du Reich, qui était le maréchal von Hindenburg, le glorieux soldat qui avait commandé les armées de Guillaume II et d'ailleurs les avait conduites à la défaite, mais sans perdre pour cela son prestige, avait vu arriver à son terme son mandat, Adolf Hitler s'était présenté comme candidat à la présidence de la République allemande. Cela paraissait incroyable. Un ancien peintre en bâtiment, un ancien caporal de l'armée allemande, comme je l'ai dit tout à l'heure, voulait essayer de ravir la première place de la République allemande à un grand seigneur de Prusse orientale, à un homme qui représentait toute la féodalité prussienne et à un maréchal des armées allemandes qui avait ses statues partout et que le peuple révérait.
Et c'est à cette période précise où vous êtes allé en Allemagne.
C'est en effet pour suivre cette campagne électorale que le matin m'a envoyé à Berlin. Je n'avais aucune formation politique autre que celle de la plupart des gens, mais on m'avait demandé surtout de donner le côté humain, le côté dramatique de ce conflit. Ma première stupeur en arrivant à Berlin fut d'apprendre que le matin même, une rixe, ou plutôt un vrai combat, avait eu lieu entre les formations d'assaut de Hitler et une grande procession communiste dans un des quartiers les plus ouvriers, les plus populeux de Berlin. Ma stupeur venait non pas du nombre de tués et de blessés qui était considérable, parce que depuis longtemps les journaux signalaient des fêtes de ce genre, mais le peu de place et le peu qu'on accordait dans la presse à cette bagarre et le peu d'intérêt que montraient les gens à cette rencontre sanglante. Je m'imaginais, si les choses s'étaient passées comme ça à Paris, c'est-à-dire une rixe dangereuse et meurtrière entre formations politiques, les manchettes des journaux, l'excitation dans la rue, les commentaires passionnés, bref, tous les mois d'une grande ville en présence d'un tel fait. J'ai interrogé des gens autour de moi. Je connaissais quelques écrivains et quelques journalistes allemands qui étaient venus à Paris et des journalistes français, et tous haussaient les épaules en disant « mais c'est une chose tout à fait naturelle ». Je n'ai pas voulu les croire et je me suis fait conduire à l'endroit même où s'était passée la bagarre. Il y avait encore des traces de sang sur le pavé et pourtant la rue était complètement vide. Les gens vaquaient à leurs occupations. Alors j'ai abordé une ou deux femmes qui vivaient dans la maison même devant laquelle s'était passée la bagarre et elles ont haussé les épaules en disant « mais nous y sommes habitués, c'est tous les jours la même chose, ici ou ailleurs dans Berlin ou dans les autres villes ». Et c'est à cela que j'ai pu mesurer à quel point les passions étaient montées puisque même la mort d'ouvriers et des hitlériens des troupes d'assaut ne provoquait plus la moindre émotion.
Vous avez déjà eu l'impression que l'Allemagne s'installait dans ce climat de violence et n'y trouvait rien d'extraordinaire.
C'était vraiment l'habitude de la guerre civile, d'une guerre civile, mais qui était entrée par habitude, comme on aurait dit qu'elle était entrée dans les murs des maisons. Alors, j'ai poursuivi mon enquête et j'ai vu comment se préparait ce climat d'insensibilité à la mort et à la guerre civile. C'était une question de haine. Quand la haine est arrivée à ce point, la vie humaine ne compte plus. Et Hitler avait bâti toute sa propagande sur l'excitation, la religion de la haine. J'ai été pour assister à cela dans un autre quartier ouvrier. Très pauvre, la salle était grande mais enfumée, crasseuse, et il n'y avait là que de très petites gens, petits fonctionnaires, petits employés, petits commerçants et aussi des ouvriers qui venaient des usines proches. Ils écoutaient avec avidité un agitateur qui portait la chemise brune et dont je suis appris qu'il avait été avant un leader syndicaliste, c'est-à-dire un homme habitué à manier les foules. Il ne donnait aucun programme. Il ne donnait aucune raison valable. Tout n'était qu'appel aux instincts les plus primitifs. Nous allons détruire tel régime. Nous allons détruire tel homme. Nous allons faire de l'Allemagne le plus grand pays. Nous allons démolir les Juifs. Et là, c'était l'accent principal. Dès que la tension fléchissait, dès que le tonus du public diminuait, aussitôt l'orateur, celui-là et un autre après lui, commençait à faire de l'antisémitisme et aussitôt son succès devenait immense. Et quand je suis parti, j'étais poursuivi par ces cris de haine et par les regards meurtriers qu'ils allumaient chez des gens paisibles, mais que cette propagande, que ces forgerons de la haine transformaient en fanatiques.
Oui, on a bien vu, hélas, depuis, la valeur du slogan pour entraîner les adhésions. Mais pourtant, cette montée du national-socialisme n'allait pas sans susciter d'opposition, puisque vous avez été témoin vous-même de bagarres et de rixes.
L'opposition était considérable par le nombre. Les hitlériens, alors, n'étaient qu'une minorité, nombreuse, agissante et résolue, mais tout de même une minorité. Seulement, l'opposition était divisée en parties que séparaient des fossés infranchissables. Il y avait d'abord les communistes. Ceux-là étaient les mieux organisés et les plus forts dans l'opposition. Ils auraient pu opposer à Hitler, et ils opposaient d'ailleurs, des combattants qui s'affrontaient tous les jours, d'où ces morts quotidiennes dont j'ai parlé au début de l'émission. Mais ils étaient brimés, ils étaient maintenu dans une demi-impuissance par les autorités qui, c'était une erreur immense comme on l'a vu plus tard, les redoutaient plus qu'ils ne redoutaient les hitlériens. Ainsi, on leur avait interdit de porter un uniforme, tandis que les hitlériens conservaient le droit de porter le leur. Or, dans l'Allemagne, d'alors, l'uniforme avait un prestige tel que, le fait est presque incroyable, mais beaucoup de jeunesse communiste sont passés dans le camp hitlérien uniquement pour avoir le droit de porter un uniforme. Il y avait encore les socialistes. Cela était une puissance électorale, mais n'avait pas de troupes de choc nécessaires pour s'opposer dans les combats de rue aux hitlériens. Il y avait ensuite tous les partis du centre, mais cela était des bourgeois et ils n'avaient pas la
le dynamisme,
ni le goût d'aller dans la rue, et leur propagande était très faible. Le seul adversaire véritable de Hitler était un homme de 82 ans, même de 84 ans, je crois, qui était Hindenburg. Mais là, c'était un paradoxe absolu. Cet homme qui était né avant la guerre de 70, c'est-à-dire pendant que l'Allemagne n'avait pas encore fait son unité, qui avait vu le chancelier Bismarck organiser cette unité, qui avait été jeune officier dans l'armée qui avait battu la France en 70, et qui était un féodal véritable, était devenu président d'une république qu'il méprisait, parce que c'était une république, et la servait tout de même, aussi bien qu'il pouvait, parce que c'était un homme qui avait l'habitude du serment, et il servait aussi fidèlement la République qu'il avait servi son Kaiser, déchu et en fuite. Mais autour de lui, des hommes dans l'ombre, des hommes encore mystérieux, menaient vraiment la politique allemande et le combat contre Hitler. Ces hommes se réunissaient dans un endroit interdit à la foule des mortels et qui s'appelait le Herrenklub, c'est-à-dire le club des seigneurs, le club des maîtres. Naturellement, je ne pouvais pas penser, moi, étranger et passant quelques jours seulement à Berlin, d'y être reçu et de recevoir des confidences. Mais par l'entremise d'un écrivain allemand qui m'adressa à un diplomate, lequel faisait partie de ce Herrenklub, j'ai pu y passer quelques minutes, le traverser, boire un verre au bar. C'est un spectacle que je n'oublierai jamais. On eût dit vraiment une maison forte, un espèce de château féodal en plein cœur de Berlin, avec des hommes qui tous avaient le monocle vissé à l'œil, froids, carnassiers, d'un mépris absolu pour l'humanité, très courtois d'ailleurs, mais d'une courtoisie pire qu'une insulte, parce qu'elle supposait une supériorité absolue non seulement sur l'étranger, mais sur le monde entier. C'était vraiment la race élue des seigneurs. Là, on m'a indiqué un homme, dont le nom m'est revenu plus tard, qui s'appelait M. von Papen et qui devait jouer un grand rôle dans la fin de la liberté allemande. Un autre homme, qui était le général von Schleicher, qui aussi a joué son rôle dans cette période. Et enfin, un nom que nous avons tous connu en France, parce qu'il est devenu célèbre pendant la guerre de 40, le général von Rundstedt, qui alors gouvernait la place de Berlin. Et on disait que c'était ces trois hommes qui inspiraient le vieux maréchal.
Et avec Adolf Hitler, avez-vous eu des contacts personnels, pourrait-on dire ?
Contacts personnels, non. Je ne lui ai jamais adressé la parole, je n'ai jamais été reçu par lui, d'abord parce qu'il voyait très peu de journalistes et que, en outre, il était en déplacement perpétuel. Mais je l'ai vu comme je vous vois, c'est-à-dire à un mètre de distance, et pendant une longue séance, pendant une réunion électorale qu'il fit à Düsseldorf.
Et votre première impression a été celle vraiment d'un homme exceptionnel ?
Non, ou plutôt d'un homme exceptionnel par le caractère falot de son personnage. Il faut dire qu'il avait été annoncé longtemps à l'avance, que la réunion se tenait dans une immense salle d'usine qui tenait au moins 25 000 personnes, qu'on l'avait glorifié pendant une heure avant son arrivée et que ses meilleurs lieutenants, Goebbels et Göring, avaient parlé. Et il y avait dans cette immense nef de ciment un silence religieux comme si on avait attendu le Messie. C'est sans doute en partie cette attente qui a causé ma désillusion. J'ai vu monter sous un orage d'acclamations, dans une espèce d'hystérie, de délire passionnel, un homme à figure très pâle, le nez en l'air, une petite mèche sur le front, habillé d'une façon quelconque, et qui vraiment ne semblait pas justifier cette espèce d'idolâtrie. Et puis il s'est mis à parler, et alors là, j'ai été déçu encore davantage. La voix était criarde, coupé, il ne disait que des banalités, des choses très vagues, et chacune de ses phrases soulevait l'enthousiasme. Et peu à peu, il s'est mis en transe. Et alors là, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'il exerçait sur son public. Il était tellement infatué, amoureux, de lui-même, tellement persuadé de son propre magnétisme et de son propre pouvoir, que peu à peu, il le communiquait aux autres. Et ces gens qui l'écoutaient, il faut se souvenir qu'il y avait un chômage terrible dans l'Allemagne à l'époque dont je parle, qu'elle avait été humiliée par le traité de Versailles, que les partis qui avaient précédé celui qui devait venir au pouvoir se déchiraient, avaient laissé l'Allemagne flottante, indécise, la jeunesse sans direction, et que dans cet homme, si sûr de lui-même, si amoureux de lui-même, dans l'hystérie de sa personnalité, il se voyait magnifié et glorifié eux-mêmes. Et à mesure qu'il criait « Moi, 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 l'Allemagne c'est moi, l'Allemagne c'est vous, moi, vous, je ferai de vous l'Allemagne et je vous entraînerai à ma suite vers les grandeurs », il les intoxiquait complètement et exerçait sur eux une espèce d'hypnotisme. Le résultat de cette propagande de haine, de cet empoisonnement général, je l'ai vu dans une circonstance qui m'est restée gravée dans la mémoire parce qu'une femme est morte à cause de moi. Cela se passait à Königsberg, la capitale de la Prusse orientale, où j'étais allé passer 24 heures parce qu'une vague de meurtres avait déferlé sur cette ville qui fut autrefois paisible. Une nouvelle rixe, en une entre mille, avait opposé des communistes et des hitlériens, et dans chaque groupe, un homme avait été tué. Leur corps avait été porté à la morgue pour autopsie, et les deux parties avaient décidé de venir les chercher à la même heure, le même jour, pour des obsèques solennelles. Il était évident que la rencontre de ces deux cortèges, animée d'une haine inexpiable et d'une fureur passionnée, devait amener des troubles graves. C'est pourquoi j'avais pris l'avion de Berlin pour Königsberg. À l'aérodrome, j'ai eu la chance de trouver une voiture rapide et puissante parce que je voulais être le plus vite possible devant la morgue. Et après avoir promis au chauffeur, qui était en même temps propriétaire de la voiture, qu'on laisserait la voiture en dehors des manifestants parce qu'il avait très peur, nous sommes partis. Je suis arrivé à la morgue à 10 heures alors qu'on devait venir pendre les corps vers midi. C'était dans un quartier ouvrier et déjà les manifestants communistes, et non seulement communistes, mais socialistes et même bourgeois, tous les anti-hitlériens, commençaient à se réunir là pour protester contre les méthodes des troupes d'assaut, car c'était elles qui avaient commencé la bagarre. Donc nous attendions, et à mesure que le temps passait, la tension montait sans cesse, car on attendait l'arrivée du convoi hitlérien. Tout à coup, on a entendu, dans l'avenue qui longeait la petite rue sur laquelle donnait la morgue, un bruit de plusieurs camions qui arrivaient à toute vitesse. Et comme les hitlériens arrivaient toujours en camion et en formation presque militaire, les hommes se sont soudés, beaucoup ont mis les mains dans leurs poches, où sans doute il y avait des clés anglaises, des couteaux, des rasoirs et même des revolvers, et se sont préparés à tout. Mais ce n'était pas des hitlériens qui arrivaient, c'était des choupeaux, c'est-à-dire des policiers militaires. Ils ont déblayé la rue en un clin d'œil, ont formé une haie, ils étaient plusieurs centaines, et quelques-uns d'entre eux, commandés par deux officiers, sont entrés dans la morgue. Ils en sont ressortis quelques instants après, portant deux cercueils. Les cercueils du communiste et le cercueil de l'hitlérien. Deux fourgons funèbres ont apparu comme par miracle, et les choupeaux transformés en croque-morts ont chargé les cercueils dans chacun de ces fourgons. La foule a commencé à hurler, à menacer, en disant que c'était impie, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Je me suis approché d'un officier, je lui ai montré ma carte de journaliste, et il m'a dit « J'ai des ordres, il ne faut pas que ces deux cortèges se rencontrent. Nous emmenons le communiste dans le cimetière situé à l'est de la ville et l'hitlérien dans le cimetière ouest. Comme ça, toute la largeur de Königsberg les séparera. » Mon métier voulait que j'aille d'un de ces cimetières à l'autre pour voir si tout de même il ne se produirait pas quelque chose. Jamais je n'oublierai cette espèce de navette sur une route à l'extérieur de la ville qui reliait les deux cimetières, car elle était parcourue de camions hitlériens avec des gens hurlant comme des fous, brandissant le poing, insultant tout le monde, et des patrouilles de police, la carabine au poing, prête à tirer au moindre incident. Et c'est là, et je raconte ça parce que c'est comme un symbole de cette époque terrible, comme nous roulions assez vite, mais tout à fait à droite, pour éviter toute cette circulation. Et en abordant une petite ruelle qui venait de la campagne, tout à coup, une vieille femme à bicyclette a surgi. Je n'ai jamais vu une mort aussi rapide. Son front a porté contre le bouchon de radiateur qui était en forme de flèche et qui lui a percé le crâne jusqu'à la cervelle. Elle est tombée. Nous sommes arrêtés, épouvantés, moi plutôt, parce que le chauffeur ne pensait qu'à son assurance. Nous avons été entourés par des policiers. On a commencé à prendre des déclarations du chauffeur, à prendre des photographies. Et pendant ce temps, les camions hitlériens passaient avec leur chargement d'hommes hurlants. Les camions des communistes, des socialistes passaient dans l'autre sens et ne prêtaient aucune attention à cette morte. On sentait que rien n'avait plus d'importance, une vie humaine encore moins. Mais pour moi qui venais d'un pays encore heureux et où chaque vie humaine comptait, j'avais un remords épouvantable et je me demandais est-ce vraiment la peine pour quelques articles de venir de Paris à Berlin et de Berlin à Königsberg pour tuer une pauvre vieille au visage charmant qui était morte parce qu'elle portait des fleurs de camomille séchées à la ville.
Et malgré tout, en face de cette marée montante et de ce déferlement de fanatisme, c'est encore le clan des seigneurs à monocle qui a gagné, provisoirement tout au moins.
Oui, Hindenburg a été réélu président de la République allemande, mais la marée était en route, plus rien ne pouvait l'arrêter, et quelques mois plus tard, le même Hindenburg appelait Hitler comme chancelier du Reich. On connaît la suite.
Venez d'entendre Témoins parmi les hommes, les aventures et les souvenirs de Joseph Kessel. Ces entretiens ont été réalisés avec la collaboration de Paul Guimard.